Créé en 1981 à Bordeaux, le salon Vinexpo dédié au secteur des vins et spiritueux s'est installé pour la première fois à Paris en février dernier, juste avant que le Covid ne frappe la plupart des pays européens. Au dire de François Surget, œnologue, caviste et producteur, c'était un peu Noël en février. Nous allons donc le suivre dans les allées de cet événement incontournable du secteur. Je m'appelle Philippe Hermet, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour François.
Bonjour Philippe.
Donc aujourd'hui on va parler du dernier grand événement international qui a eu lieu en février dernier à Paris. C'était avant le fameux confinement.
Tout à fait, oui, mois avant.
Même s'il y avait déjà le Covid en Chine. Pour preuve, les visiteurs chinois n'étaient pas présents.
Tout à fait.
Durant cet événement. Donc pour résumer, en fait, c'est un événement qui a quand même attiré 2800 exposants et presque 30 000 visiteurs, dont un tiers d'étrangers, donc quelque chose de très très important. Et ma première question, elle est assez simple. Pourquoi avoir choisi Paris alors que traditionnellement cet événement avait lieu à Bordeaux?
Mais tout simplement, je pense que c'est une partie très intelligente qui a été faite là. Ça, en tout cas, c'est bien joué. Parce que ce soit Vinexpo, Bordeaux, Vinisud, là, on a une espèce de fusion qui s'est faite entre Vinisud et Vinovision. Et on a apporté le professionnalisme du vin. On lui cherchait une capitale. Et je crois qu'ils l'ont trouvé. Je pense qu'ils l'ont trouvé à Paris. Tout simplement parce qu'il y a tous les accès déjà européens. C'est une capitale européenne. Donc, il y a tous les accès pour l'Europe, déjà. Et il y a aussi l'accès, avec tous les aéroports, bien sûr, pour le monde entier. Évidemment, là, la Chine n'était pas présente. La Chine était principalement absente. Bah, tout simplement, on en connaît la cause. Et aujourd'hui, avec un regard un petit peu différent, je vais un petit peu vous raconter un petit peu ce que j'ai vécu moi, en visitant cette grande manifestation. Cette manifestation qui a beaucoup d'importance parce que on peut y retrouver à la fois le milieu du vin, le milieu des alcools, le milieu de la mixologie, et ce qui fait que c'était quelque chose d'assez important parce qu'il y avait beaucoup de conférences, parce qu'il y avait des testings permanents pendant ces 3 jours, et aussi des masterclass. Les marques en ont profité pour faire des masterclass très importantes en invitant leurs clients. Mais j'ai quand même ce sentiment de, par rapport à Vinexpo, par exemple, Bordeaux, j'ai l'impression que là, ça s'est professionnalisé. J'ai l'impression d'une profession qui s'est armée d'un endroit, qui s'est armée de toutes ces possibilités. Imaginez le petit caviste parisien. Imaginez le petit caviste. Excusez-moi, c'est pas péjoratif le petit, mais ce caviste qui se trouve au fin fond de la France, en plein centre, eh bien, l'accès est quand même plus pratique, je dirais, pour Paris que d'aller à Bordeaux. Idem pour quelqu'un qui habite à Munich. Munich, Paris. Paris, directement, il va sur son espèce de champ de foire, entre guillemets.
Donc est-ce qu'on peut dire du coup que Paris est devenu la vitrine en fait des vignobles de France, de Navarre et même au-delà du monde?
Non, elle devient. Elle va devenir cette capitale mondiale du vin. Le fait que Paris centralise un petit peu le monde entier sur le vin, le plus important, c'est que c'est fait à une époque clé. L'époque où ils l'ont choisi, c'est là où je parlais d'intelligence tout à l'heure. Entre le 10 et le 13 février, j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper intelligent, tout simplement parce que c'est le moment où les cavistes, les restaurateurs, les grands monnayeurs du vin internationaux
font leurs
achats. Mmh. Exactement. Mmh.
Donc on y trouvait principalement des châteaux, des grossistes, des négociants, des distributeurs. Donc un salon vraiment professionnel, peu de grand public finalement.
Voilà. Et on s'aperçoit que dès qu'on rentre, on est accueilli, mais aussi accompagné. Et ça, c'est moi qui suis un fanat de moto, je suis toujours au salon des motos et des voitures dans ce parc, à la porte de Versailles. Et bien là, j'ai trouvé un espèce d'accompagnement que je n'ai pas habituellement. On m'a accompagné, on m'a aidé. Et très souvent, j'ai été interpellé par des gens qui me demandaient si j'avais besoin d'aide, si j'avais besoin qu'on m'oriente. Et je pense que je n'étais pas tout seul, puisque il y avait avait énormément de gens pour les accompagnements. Et dès, moi, je suis rentré par la partie Languedoc. Alors là, j'ai été, vous connaissez mes sentiments avec le Languedoc, j'ai été très surpris, en fait, c'est simple, pour moi, c'était Noël. Je suis rentré, j'ai vu, mais c'est vrai que c'est
c'était Noël en février.
Oh ben là, c'était Noël, après Noël. Et je suis rentré, déjà, je suis tombé sur les coteaux du Languedoc, avec les pics Saint-Loup. Mais j'avais du mal à décrocher de cette région. Je m'étais fait mon plan pour essayer de voir un petit peu partout. Mais alors là, j'étais complètement hors course. Il va me falloir 15 ans, 15 années successives pour pouvoir faire le tour. Parce que c'était immense.
C'était immense.
Et c'était tellement bien présenté, organisé, que vous n'aviez qu'une seule envie, c'est de parler avec tous ces gens. De parler avec tous ces gens. Moi, je suis bavard en plus. Donc, et tous ces gens m'interpellaient non pas par des dégustations, mais par des sourires très professionnels. Vous savez, cet accueil que vous avez dans les régions, eh bien, on l'avait là. On l'avait là. Après, vous aviez le rayon, entre guillemets, toutes les régions étaient compartimentées. J'ai pris un plaisir fou avec le Val-de-Loire, contrairement à d'habitude. Vous voyez, le Salon d'Angers, c'est bien, ouais, c'est bien. C'est bien. Mais là, vous voyez, rien que toute la partie, il y avait quoi, je crois, à peu près 200 vignerons qui représentaient cette appellation. C'est énorme, bien sûr. Et j'avais vraiment le sentiment de plaisir d'échange que je n'avais pas à Angers, par exemple. Et j'avais beaucoup plus d'échanges à cet endroit-là. Peut-être parce que j'étais chez moi, parce que j'étais en région parisienne. C'est des sentiments qui se... J'aimerais partager ça avec d'autres personnes, parce que c'est un sentiment qui me plaît.
D'accord. Et donc ton objectif, indépendamment de la curiosité de l'événement, etc., t'y allais pour quel objectif particulier ?
Alors mon objectif cette année, en tout cas, c'est si je me suis présenté deux jours sur ce salon... C'est parce que je ne voulais, certes, je croise obligatoirement des gens que je connais, ce qui prend du temps, parce que vous êtes obligé de dire bonjour, vous êtes obligé de parler.
Le réseau, bien sûr.
Bien sûr, c'est énorme. Par contre, je voulais rencontrer d'autres personnes. Et c'est quand même une réussite. C'est quand même une réussite, parce que j'ai rencontré des gens que j'avais déjà entendu parler. J'avais goûté certains vins et je n'avais pas les personnes devant moi. Et là, j'avais les personnes devant moi et je pouvais faire les dégustations avec eux. Évidemment, on ne peut pas tout déguster. Vous imaginez le nombre de vins que ça représentait. Chaque producteur pouvait présenter jusqu'à 5-6 vins différents, des cuvées différentes. Vous ne pouvez pas tout déguster, bien sûr, ça va de soi. Mais déjà, une première approche avec des producteurs que vous n'avez pas l'habitude avec qui vous communiquez.
Et du coup, en termes de millésimes, on était sur les derniers millésimes disponibles ou alors on pouvait aller beaucoup plus loin ?
Alors, les derniers millésimes disponibles, c'était là où on allait le présenter. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de 2018, énormément de 2017. En revanche, quand vous connaissez un petit peu, je dirais, le milieu, vous savez très bien que des propriétés ont toujours quelques bouteilles derrière le comptoir avec des millésimes très sympathiques qu'ils aiment à partager aussi avec leurs clients parce que aussi ils ont quelques barriques disponibles, ils ont quelques palettes aussi disponibles de certains millésimes. Comme là, il y avait des 2015 disponibles, notamment au Pic Saint-Loup. J'étais vraiment bluffé.
Alors moi, on m'a dit qu'il y avait pas mal de grandes figures qui étaient présentes, de patrons, Bernard Magret, le patron de Moët-Hennessy. Toi, quelle figure tu as pu rencontrer ou croiser ou écouter tout simplement ?
Les grandes figures que j'ai pu croiser là-bas, que ce soit Magret par exemple, moi j'adore ce personnage, il est vraiment haut en couleur quoi. J'aime parler avec lui, j'aime échanger parce que il est moi, si je suis passionné, lui, c'est mille passions, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'arrête jamais, quoi. Mais il y avait beaucoup d'autres personnes à rencontrer. Il y avait certes, il y a des patrons de châteaux, c'est évident, mais vous savez que les grands châteaux bordelais, pour les rencontrer, vous avez toujours les dégustations une fois par an qu'ils organisent dans leur propre château. Et c'est justement, je vais rebondir là-dessus, c'est que tout simplement, tous ces gens que j'ai pu rencontrer, les grands châteaux, évidemment, les grandes maisons de négoce qui étaient bien sûr présentes sur ce salon, eh bien, tous ces gens-là, habituellement, quand on fait Vinexpo, vous invitent dans leur propre château, directement. Ce qui fait qu'ils organisent des fêtes dans leur château. Ils organisent des dégustations très importantes, avec des millésimes bien précis, avec des sorties de cave fabuleuses. Et tous ces gens vous reçoivent chez eux, donc à Bordeaux. Là, c'est différent, parce qu'ils ne peuvent pas vous recevoir dans leur cave à Bordeaux, puisque vous êtes à Paris.
Donc, tu en as parlé justement, il y avait la Porte de Versailles, et puis il y avait aussi, à côté, le Festival Off, finalement, avec énormément d'événements qui étaient organisés dans des hôtels, dans des caves, chez des cavistes, etc. C'est ce qui fait aussi un peu la force de cet événement.
En fait, là, c'était un coup d'essai. Quelque part, tout ce que j'ai pu voir dans Paris, je pense que c'était un coup d'essai. Le prochain, je peux vous assurer, ce sera extraordinaire. Tout simplement parce que...
En février prochain, hein, c'est déjà annoncé.
Février prochain, je peux vous assurer que ces gens-là vont réserver déjà, donc dans les hôtels, dans les grands hôtels, mais aussi dans les caves. Moi, je suis même prêt à leur prêter ma cave et m'associer, je dirais, avec certains châteaux pour qu'ils puissent venir faire découvrir les vins chez moi. En revanche, j'ai pu m'apercevoir aussi qu'il n'y avait pas que les vins. Il y avait aussi les alcools et tout ce qui était mixologie.
Oui.
Et il y a eu, en fait, une tripotée de bars, de bars à cocktails et notamment aussi de bières, de bars à bière, qui ont joué le jeu et qui ont fait une espèce de fête. Et j'ose espérer que ce grand salon va déteindre sur la ville de Paris et ça va... En fait, le salon sera peut-être la ville entière de Paris avec ses dégustations la journée dans les caves, dans les grands hôtels, mais le soir aussi dans les bars avec de la mixologie, avec des rhums, avec des cognacs, avec des armagnacs, parce que tous ces gens-là étaient présents. Les jus de fruits étaient présents. Les eaux, je ne les ai pas vus.
Il n'y avait pas de bar à eau.
Mais je pense que ce serait une bonne idée aussi de faire un bar à eau. Il y a toujours des marques bien précises d'eau qui sont là présentes et qui aussi nous font bien plaisir aussi de temps en temps, entre chaque dégustation, de pouvoir boire un verre d'eau.
Donc tu as parlé effectivement de la mixologie. Donc il y avait le fameux Infinite Bar où on pouvait finalement créer son propre cocktail.
Il y avait 50 ou 60 mètres de bar.
C'est énorme.
C'est 50, je crois que c'était 50 ou 60 mètres.
Donc ça, c'était vraiment aussi très intéressant par rapport à l'événement. Un autre point dont on m'a parlé durant Vinexpo, c'était aussi toutes les tables rondes des conférences qui ont eu lieu, avec notamment énormément de discussions autour de l'avenir finalement de la viticulture, avec les contraintes nouvelles que sont le réchauffement climatique, l'e-commerce, etc., etc. Donc,
le seul souci, c'est que c'est tellement immense et c'est tellement concentré sur ces 3 jours que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Dans l'idéal, il faut y faire les 3 jours. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il va falloir s'organiser pour l'année prochaine. Et si je puis me permettre, je donne un conseil, préparez vos rendez-vous, préparez votre visite, notez bien ce que vous voulez faire parce que vous allez très très vite vous faire déborder. Très très vite, vous êtes accroché obligatoirement au moins des dizaines et des dizaines de fois par des vignerons qui vous connaissent, qui vous reconnaissent, que vous reconnaissez aussi. Et vous pouvez pas tourner la tête parce que c'est pas possible. Donc, c'est un sourire par là, c'est un échange de sourires et puis ça se finit avec une dégustation. Et puis, je dis pas que ça va se finir avec des commandes sur place. Et quoique, j'ai vu énormément de tables de négociations chez certains
producteurs
et négociants, ils passaient directement, il y avait des gens qui venaient préparer et avaient préparé leurs commandes et ils faisaient aussi des dégustations et commandaient aussi en même temps, surtout pour le marché extérieur.
Est-ce que, tu nous as parlé notamment du fameux Pomerol que tu as découvert, est-ce que tu as eu l'occasion de goûter par exemple des productions étrangères de vin ou même de sparkling?
Moi, ce qui m'a intéressé et interloqué un petit peu, c'est... On a vraiment isolé un petit peu sur un étage, bâtiment 7, quelque chose, 7-1 ou 7-2, je ne sais plus exactement, tous les vins des pays extérieurs. J'ai trouvé ça un petit peu dommage, quoi. Je pense qu'il faudrait mixer un petit peu plus. En mixant un petit peu plus, on aurait déjà plus d'échanges encore. Déjà, un échange qui est très important, c'est les échanges entre producteurs. Mmh. Et je trouve qu'il n'y avait pas... Enfin, après, c'est toujours pareil, j'étais pas suffisamment...
Oui, t'as pas pu tout voir non plus.
Non, j'ai pas pu tout voir.
C'était trop
immense. Mais je pense que j'ai pas vu ces échanges entre régions, quoi. Et il faudrait que ça dure un petit peu plus longtemps. C'est vrai que ça dure un petit peu plus longtemps, quelques jours de plus peut-être. Mais c'est vrai que quand on prépare bien sa visite, à découvrir, les découvertes se font mieux. Hein, je pense que là, va falloir vraiment le faire. Et ces conférences, il y en avait énormément. Il y en avait une, je crois que c'était Moët Hennessy qui la faisait, c'était sur l'avenir du vin, c'était le vin en 2050.
Donc pour toi, pour résumer, ce Vinexpo 2020, c'est un vrai succès.
Oui.
On espère que ça va aussi permettre au secteur de se redynamiser un peu après ces deux, trois mois difficiles.
Oui, tout à fait. Je reste convaincu que cette manifestation, elle en est vraiment au début de sa carrière. Parce que je crois que là, ça va vraiment dynamiser le monde du vin. Et tout à l'heure, quand je disais la ville de Paris va jouer, je ne parle pas de la mer de Paris, hein, je parle vraiment du milieu, le milieu des bars, le milieu des caves, le milieu des hôtels dans Paris, rien à voir avec la mairie. Tous ces gens-là vont jouer le jeu et je pense qu'il va y avoir une accélération dans les manifestations sur le vin et les alcools, bien sûr, dans Paris.
Je profite du fait que tu parles des cavistes pour te poser une petite colle pour terminer cette émission. Donc, combien y a-t-il de cavistes à Paris, selon toi ?
Alors, cavistes indépendants ou de chaîne ?
On va dire cavistes en général.
De boutiques, alors, tout compris. Moi, je pense qu'il y a à peu près... il y a bien 700 à 800 boutiques dans Paris. Hein.
Alors, le chiffre que j'ai de la CCI de Paris, c'est 604 cavistes
dans Paris.
En 2007. D'accord. Dans Paris, intramuros.
Et on compte, bien sûr, les grandes chaînes.
Je pense qu'on compte les grandes chaînes, c'était pas précisé dans...
Parce que s'il y a les grandes chaînes, c'est pas si énorme que ça pour les autres. Quoi.
Dans le même ordre d'idée, c'est la deuxième question. Combien y a-t-il, selon toi, à Paris toujours, de bars, restaurants qui ont la licence 4, donc le droit de distribuer, de vendre de l'alcool ?
J'en ai aucune idée. Allez, alors ça comprend les hôtels, les bars, les caves, ça comprend tout ça ?
Ça comprend tout, ça comprend les bars, les restaurants.
Alors, je dirais entre 6 et 7 000. Si, c'est 7 000 endroits où on vend de l'alcool.
T'es vraiment pas loin. Il y en a 8 800, toujours selon la CCI de Paris. Et enfin, ma dernière question...
Je croyais que c'était une question seulement.
Et enfin, ma dernière question, parce que j'ai trouvé ça amusant. Oui. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas facile. En tout cas, moi, c'était une surprise. Quel est le prix moyen d'un verre de vin dans un restaurant ou un bistrot indépendant à Paris, en moyenne ? Quel est le prix moyen d'un verre de vin ?
Je serais tenté de dire, tout simplement, entre 8 et 12 euros.
Alors, t'es bien au-dessus, figure-toi, parce que ça, c'est plutôt le prix que l'on peut trouver en moyenne dans un restaurant gastronomique, qui est aux alentours de 9 euros. Par contre, pour un bistrot indépendant ou un restaurant indépendant à Paris, c'est 5,40 euros selon Opinionway, et c'est 26% plus cher qu'en province. Donc ça, c'est aussi assez intéressant comme chiffre. Je voulais t'en parler. Ouais. Voilà, pour terminer cette émission.
Je suis assez bluffé. Hein, parce que
moi aussi, j'étais très surpris en fait par ce chiffre. C'est la raison pour laquelle je voulais le partager avec toi.
La prochaine fois qu'on peut payer à 12 euros dans un restaurant qui n'est pas classé, je pense que je ne vais pas être content.
François, voilà. Je te remercie pour ces éclairages sur Vinexpo.
Mais c'était vraiment un grand plaisir et surtout, messieurs, faites-vous remplacer dans vos caves.
Messieurs ou mesdames.
Ou mesdames, pardon, oui. Allez-y, franchement, vous allez passer un moment extraordinaire. Et surtout, préparez bien votre visite parce que vous serez surpris.
Donc, on te donne rendez-vous au prochain Vinexpo qui aura lieu en février 2021, si tout va bien.
Tous les jours. Tous les jours d'ouverture, j'y serai, sûr.
Merci François, à bientôt. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager et à le créditer de 5 étoiles. La semaine prochaine, nous irons dans la région de Bordeaux, où François Surgé nous parlera plus spécifiquement de la rive gauche, de ses appellations et du fameux classement de 1855. En attendant, portez-vous bien.